Culture Pluriel, et si on en parlait ? Un magazine hebdomadaire conçu et animé par Malik Alafer sur Adinal, réalisé par Sofiane Saouli.
Amis auditeurs, bonjour. Comme vous le savez, du 1er au 7 avril se déroule un colloque, plus exposition et publication sur Saint-Augustin, un colloque scientifique international qui regroupe 40 savants de 15 pays. Les contributions, toutes liées au thème de l'africanité et de l'universalité d'Augustin, relèvent de divers domaines, théologie, philosophie, histoire et des idées archéologiques. Du 2 au 4 avril, les conférences ont eu lieu à Alger. Et les 5 et 6 avril, le colloque se rendra donc sur les rites, sur les sites archéologiques du nord-est algérien liés à la figure d'Augustin pour des visites et des conférences. Alors, nous avons donc invité plusieurs personnes. Bien sûr, en premier, M. Bouayed, qui est président de la commission de l'organisation du colloque. Alors, M. Bouayed, vous êtes président de l'organisation du colloque. Le HCI organise un colloque sur Saint-Augustin. Alors, pourquoi le HCI ?
Le HCI, parce que ça dépendait. Le président lui-même a pensé à M. Abdelmajid Mziane. C'est la personnalité de Abdelmajid Mziane qui a déterminé le choix du HCI. Vous savez que c'est un homme de grande ouverture, un homme de tolérance qui a participé au dialogue des religions avec les chrétiens, et il a participé à une grande réunion organisée par l'Iran il y a à peine 2 ans sur le dialogue des religions, et c'est pourquoi le président l'a choisi, et je pense que c'est un bon choix, et pour démontrer que la HCI, c'est aussi un organisme d'ouverture, pas seulement son président, mais toute l'institution.
Monsieur Bouayed, bon, quand on parle de Saint-Augustin, on sait qu'il a vécu au IVe siècle. C'est un mystique, un philosophe, un scientifique. Alors, aujourd'hui, peut-on dire que sa philosophie dans ce monde contemporain reste toujours d'actualité ?
Il y a beaucoup d'aspects de sa vie et de ses idées qui sont encore d'actualité. À travers les siècles, les hommes ont puisé dans ses idées, et jusqu'à maintenant, on a besoin de lui. Par exemple, il a parlé des tortures, il était contre les tortures, il est pour le dialogue, la tolérance, accepter l'autre tel qu'il est, et il a combattu l'intégrisme à son époque. Et c'était un homme d'ouverture, parce que souvent on dit que les gens se trompent, et certains historiens et tout, que le donatisme était un mouvement populaire contre les Romains, etc., etc. C'était surtout un mouvement intégriste. Et il l'a combattu, mais il l'a combattu avec la parole, par le dialogue. Jamais, il n'a jamais fait appel à la violence. C'était l'homme du dialogue, de la tolérance, et accepter l'autre tel qu'il est et essayer de le convaincre par la parole.
Ce colloque, que va-t-il apporter justement ? Quelle est la dimension qu'il va donner ?
La dimension, c'est de redonner sa place à Saint-Augustin dans le panthéon des grands hommes de l'Algérie, parce que le monde entier connaît Saint-Augustin, le considère comme un des plus grands penseurs de l'humanité, au même titre qu'un Platon, qu'un Aristote, qu'un Confucius, qu'un Marx, qu'un Karl Marx. Et il est de cette trempe. C'est un homme d'une très grande valeur. Et c'est dommage que le peuple algérien qui a donné naissance à ce grand homme ne le connaisse pas. Et nous espérons que, grâce à ce colloque, le peuple algérien renoue avec son fils et connaisse ses idées.
Alors, M. Bouayed, Saint-Augustin va donner aussi l'occasion au HCI de faire d'autres colloques sur d'autres grands hommes que l'Algérie a connus.
C'est-à-dire, le HCI, attention, c'est des questions plus ou moins rattachées à la religion quand même. bon, des grands hommes, sinon pas de lien avec la religion, c'est pas son rôle. Bon, je parle ça de l'extérieur parce que je ne fais pas partie du ACI, je ne parle pas au nom du ACI. Je parle maintenant au nom du comité qui organise le colloque.
Beaucoup d'étrangers vont venir ?
Oh oui, il y en a énormément. Bon, d'abord les conférenciers, et c'est des gros calibres, les conférenciers. C'est les plus grands spécialistes du monde que nous allons avoir. Qu'ils soient, il y en a, je vous dis, du monde entier, du Japon, du Chili, du Canada, de France, d'Autriche, etc. Il y a 15 pays qui sont représentés, et ce n'est pas un problème de pays, mais c'est un problème de spécialistes. C'est vraiment des gros calibres qui vont venir. Il y a des gens qui, on n'a pas pu les prendre malheureusement, on a eu tellement de demandes de gens qui voulaient faire des communications qu'on a été obligé de limiter, et ils sont acceptés, il y a une cinquantaine qui vont être acceptés comme simplement auditeurs. Ils sont là, ils sont contents de venir voir le pays de Saint-Augustin, le visiter et voir les grands spécialistes dans le monde.
Alors, dans ce colloque, il sera bien sûr question de Saint-Augustin, de la ville d'Hippone, de Soukaras, la ville où il est né, le Saint-Augustin philosophe, le Saint-Augustin mystique, le scientifique, l'humaniste.
Oui, alors là, attention, il y a, vous dites mystique, là, ce côté n'est pas tout ce qui est l'aspect religieux pour ce colloque, n'est pas retenu, l'aspect religieux.
Spirituel.
Non, ni spirituel, ni rien, c'est l'africanité. Je vous dis, il y a deux sujets que nous avons retenus. C'est l'africanité, c'est-à-dire son attachement à son pays, son grand attachement à son pays. Il était très fier d'être africain, comme il disait, puisque l'Afrique, à l'époque, ce n'était pas tout le continent, c'était simplement une partie de l'Afrique du Nord. Et l'universalité, c'est-à-dire son influence, son impact sur la civilisation dans le monde.
Merci, Monsieur Boyer. L'ambassade de Suisse est partenaire pour cette organisation de colloque de Saint-Augustin. Pourquoi ?
Eh bien, c'était, je ne veux pas dire que c'était un hasard, mais c'est lors de la visite du conseiller fédéral d'AIS en octobre 1999. C'est le président Bouteflika qui, lors du déjeuner, a lancé l'idée d'organiser ensemble un colloque sur Saint-Augustin. Et M. d'AIS était tout de suite enthousiaste. Et les travaux ont bientôt commencé.
Lors de votre communication, vous disiez qu'en Suisse, Saint-Augustin est méconnu.
Je ne dirais pas méconnu. Naturellement, à l'université de Fribourg, il y a des grands experts de Saint-Augustin, mais dans la population, Saint-Augustin, on connaît le nom, mais pas beaucoup plus.
Il va y avoir la présence suisse lors de ce colloque ?
Oui, alors le Conseil fédéral d'AIS, notre ministre des Affaires étrangères, va venir. Et il sera accompagné par une délégation, notamment aussi le recteur de l'Université de Fribourg.
Alors, monsieur l'ambassadeur, justement, après ce colloque, il va y avoir un suivi, justement, au niveau de la Suisse. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors, en novembre, l'exposition sera montrée à Fribourg. Et en décembre, pour terminer l'année des Nations Unies sur le dialogue des civilisations, elle sera montrée au Palais des Nations de l'ONU. Et ça sera une manifestation ingérence suisse.
Alors, Saint-Augustin, le philosophe, le mystique, 7 siècles donc après sa mort, on sait qu'il y a des congrégations un peu partout dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, sa philosophie, aujourd'hui, marque encore le monde contemporain ?
Certainement, Augustin a beaucoup à nous dire encore, que ce soit sur la relation entre la raison et la foi, que ce soit la position du croyant dans la société. mais il s'est aussi engagé contre l'injustice, contre la torture, par exemple, concernant beaucoup de questions de société qui sont encore actuelles aujourd'hui.
Bien, merci, monsieur l'ambassadeur.
Alors, Martin Nicolas, vous êtes directeur de la bibliothèque de l'Université de Fribourg. Vous avez ramené quelques œuvres d'Augustin, en l'occurrence deux manuscrits qui datent du XIIIe siècle. Alors, est-ce que ce sont les seuls que vous détenez et est-ce que vous n'avez pas eu de difficulté à les ramener ici en Algérie?
Oui, donc l'exposition sur Augustin que vous pouvez voir à la Bibliothèque nationale d'Alger compte plus de 100 ouvrages qui proviennent de la bibliothèque de l'Université de Fribourg. Pourquoi l'Université de Fribourg ? Parce que la Suisse est coordinatrice et coopérante avec pour ce colloque et cette exposition. Et comme vous l'avez dit, il y a deux manuscrits du Moyen Âge. Alors pourquoi ces manuscrits du Moyen Âge ? Je trouvais que parler d'Augustin l'Algérien, etc., il fallait avoir le courage d'y apporter nos trésors, d'ouvrir la Suisse à des banques, elle a de la peine d'ouvrir ses coffres. Eh bien, j'ai montré que la Suisse savait ouvrir les coffres de ses trésors. Et évidemment, ça a été toute une aventure. Si j'avais fait prendre la décision aux spécialistes de France, de Suisse et d'Allemagne, personne n'aurait prêté ses originaux. Et j'ai pris la décision tout seul en me disant, parler d'Augustin, parler de la générosité, du dialogue, ton partenaire est ton égal, donc tu le traites comme ton égal et tu lui prêtes les originaux. Bien sûr, ils ont été assurés très cher, ils sont venus dans un avion spécial et je suis très fier que Fribourg ait fait ce geste à l'égard du peuple algérien.
Alors Martin Nicolas, je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes directeur donc de la bibliothèque de l'Université de Fribourg. Est-ce que l'université détient que ces deux manuscrits ou elle en a d'autres ?
Donc ma bibliothèque détient seulement ces deux manuscrits, mais à la bibliothèque de Zurich, dans les autres bibliothèques de Suisse, il y a beaucoup d'autres manuscrits qui concernent la vie ou les œuvres de Saint-Augustin. Mais comme je vous l'ai dit, ouvrir ce débat de prêt national pour l'Algérie, c'était courir à l'échec.
Alors, les originaux se trouvent bien sûr à Rome.
Il y a des originaux à Rome, il y a des originaux à Paris, c'est dans le monde entier. Hein. C'est un personnage algérien qui a vraiment rayonné dans tout l'Occident depuis le IVe siècle après Jésus-Christ.
Alors, justement, pour nos amis auditeurs, Augustin est donc né à Tagaste en 354, à sa mort à Hippone donc en 430, actuellement donc à Naba. Son œuvre immense nous donne de multiples informations sur la société, donc il a combattu la corruption, sa lutte a été en faveur des pauvres, malgré donc le pouvoir, le peu de prérogatives que détenait l'Église. L'influence de saint Augustin sur la législation de son temps. Son œuvre a été traduite en plusieurs langues. Est-ce que la pensée augustonienne, qui on a l'impression qu'elle est contemporaine, est étudiée à l'université en Suisse ?
Oui, dans toutes les universités du monde, et bien, disons, particulièrement à l'université de Fribourg, où il y a ce qu'on appelle une chaire, un professeur, qui enseigne continuellement à ses étudiants la vie et la pensée de Saint-Augustin. Et lors de ce colloque, vous avez plusieurs professeurs, notamment le professeur d'Ottawa, qui est un étudiant de l'Université de Fribourg, qui a étudié chez les grands spécialistes de l'époque, par exemple le professeur Perler, Saint-Augustin.
Martin, Nicolas, c'est la première fois que vous venez en Algérie ?
C'est la première fois.
Votre sentiment ?
Ah, j'adore, parce que vous savez, la Suisse aussi a une image négative. Et moi, je me refuse toujours à fonctionner sur les images négatives, et je préfère la rencontre des personnes. Et je suis extrêmement frappé de la cordialité, de la gentillesse des femmes et des hommes de ce pays, de l'Algérie. Il est vrai, j'ai maintenant 60 ans, mais au moment de ma jeunesse, de mon adolescence, je me souviens très bien que j'étais contre mes amis de France, partisan acharné pour l'indépendance de l'Algérie.
Eh bien, monsieur Martin Nicolas, merci et puis à bientôt. Saint-Augustin est né à Tagaste en 354 et mort à Hippone en 430. Augustin donc est une figure centrale de l'Antiquité tardive, période clé de l'Empire romain où le christianisme connaît un important développement. Issu d'un milieu modeste, fils d'un propriétaire terrien et d'une femme de grande piété nommée Monique, Augustin se convertit et adhère à la foi chrétienne en 386 sous l'influence d'Ambroise, après avoir fréquenté les milieux philosophiques platoniciens. A été auditeur. Après des manichéens pendant une dizaine d'années, il devient prêtre en 391, puis évêque en 395 et 396. Pour nous raconter un peu plus, nous avons rencontré donc à Annaba le diocèse Borges, Lucien Borges, qui est évêque donc de Annaba.
Alors, Père Lucien Borges, on va, si vous voulez bien, on va faire un petit peu d'histoire avec vous, puisqu'on va parler de Saint-Augustin, un peu de théologie, parce que je rappelle donc à nos amis auditeurs que vous êtes diocèse de Constantine et d'Hippone, que vous avez fait donc des études de théologie, vous avez obtenu aussi un doctorat de philosophie à l'Université du Louvain en Belgique, une spécialisation en économie politique et puis un brevet en arabe. Alors, Saint-Augustin est né un 13 novembre 354 dans une famille berbère. Il est né à Soukaras, qu'on appelle Tagaste, qu'on appelait, pardon. Alors, c'est un carrefour entre Carthage, Tébessa et Hippone, un carrefour spécialement commercial.
Peut-être il faudrait rappeler un peu la naissance de Soukaras, de Tagaste. Hein? Donc, c'est au début de l'ère chrétienne que cette ville elle est née. Et elle est née parce que, justement, les Romains avaient construit deux grandes routes, l'une qui venait de Timgad, hein, passant par Constantine, descendant pour aller vers Carthage, et l'autre qui descendait même très probablement, certainement de Tébessa, hein, en montant par Soukaras. Donc, c'était un carrefour. Or, en plus, la campagne est très riche. Et il y a eu beaucoup de la. On cultivait beaucoup de céréales. Or, à ce moment-là, n'est-ce pas, on est encore dans une structure locale, indigène, comme on appelait, n'est-ce pas, hein, de tribus semi-nomades. Car n'oublions pas qu'une des grandeurs des Massinissa, c'était justement de sédimenter les nomades. Mais les habitants de la région, qui sont des berbères, M. Derdouge, notre historien d'Annaba, qui est mort, il semblerait qu'il a identifié un peu cette tribu berbère. Hein? Donc, ils étaient des morts, et qui n'étaient jamais, jamais vraiment soumis aux Romains. Alors, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une ville forteresse. Et ils ont étudié, n'est-ce pas, la psychologie de ces tribus berbères. Ils se sont rendus compte, n'est-ce pas, qu'une note de caractère berbère, c'était sa fierté. Hein? Et aussi cette idée, n'est-ce pas, de se sentir honoré par quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux berbères, ils ont invité les berbères de venir vivre à l'intérieur de la ville. Et ils l'ont dit, si vous venez, et si vous devenez résident de la ville, vous serez ipso facto des Romains. Vous aurez la citoyenneté romaine. Les Romains l'ont fait ça pour que ces berbères ne brûlent pas les champs de blé. Mais eux, les berbères, ils se sont sentis très honorés et beaucoup sont venus. C'est pourquoi Saint-Augustin, né à Soukaras, avait la citoyenneté romaine. Mm-hmm.
Et alors, bien sûr, avec, si vous voulez, n'est-ce pas, après 2 ou 3 siècles, toute cette région, n'est-ce pas, de Soukaras, Mador, etc., elle va subir l'influence, personnellement, je crois, bénéfique de la culture romaine. C'est pourquoi Mador, nous avons la grande université, n'est-ce pas, hein, qui, des temps de Romains, on va avoir les plus grandes écrivains de l'Afrique du Nord, appelés. Hein? Et bien entendu, Saint-Augustin, il va faire ses études là aussi. Donc, il y a, si vous voulez, n'est-ce pas, cette raison historique à l'origine de la, si je peux dire, de la construction de la ville, mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est plutôt les culturels qui priment, et ce fait qu'on va créer un climat où on a pu, n'est-ce pas, faire rencontrer la culture romaine avec la culture locale. Car je tiens à souligner, malgré tous les péchés, parce que chaque domination, elle a ses péchés. Mais j'ai dit qu'il y a une bonne qualité dans ce que techniquement nous appelons la romanisation, et c'est que les Romains ont toujours essayé, par ruse politique peut-être, je regarde la conséquence, les effets, n'est-ce pas, hein, c'est qu'ils ont toujours essayé de s'intégrer à la culture locale. En tout cas, ça n'était jamais dans leur tête de détruire la culture locale. Au contraire, il lui donnait un statut officiel. Hein. Et voilà Saint-Augustin dans quel milieu il va naître. Donc, de petit, il va être initié à l'alphabet, à la culture. Alors, est-ce qu'il parlait les berbères? Il les connaissait certainement, les berbères, parce qu'autrement, moi, j'ai dit, et comment et il n'aura pas pu jouer avec les autres enfants? Saint-Augustin appartenait à ce que nous appellerons aujourd'hui à la petite bourgeoisie. Son père était membre du municipe local, mais il n'était pas très riche, à tel point que pour que Augustin puisse aller à Carthage, il fallait trouver quelqu'un qui lui payer les études. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, hein, c'est plutôt, moi je veux dire, la position qu'il occupait dans la cité, dans la ville, qui donnait un certain statut social à la famille d'Augustin. Alors, certainement que Augustin, je pense, dans son milieu, il parlait le latin, mais il connaissait les berbères, parce que dans des sermons, quand lui, ici, à Hippone, il va se trouver à la campagne devant les gens qui ne parlent que le berbère, hein, lui, soit qu'il va prendre un interprète, mais souvent, ici, en ville même, il dit, voilà, ces mots, dans notre langue, on les dit comme ça. Donc, il les connaissait, mais il ne la connaissait pas assez bien pour pouvoir la parler. Justement, comme on a eu, nous, contemporainement, je pense, dans notre temps, on peut rencontrer certaines familles, n'est-ce pas, hein, où ils peuvent parler une certaine langue étrangère, mais...
Certains Algériens qui ne peuvent pas parler, c'est-à-dire l'arabe. Mais cet Augustin a connu un petit peu ce même sort. Bon, il est né donc à Soukaras, il a vécu... Et ensuite, il est parti à Rome, il s'est déplacé. Comme vous dites, il a fait partie un petit peu de la petite bourgeoisie. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas et on n'étudiait pas le latin lorsqu'on était pauvre. Tout cela, donc, Saint-Augustin l'a connu. Moi, je vais sauter, Lucien Borges, quelques étapes. Mais vous avez tout le loisir d'y revenir quand vous penseriez que c'est important. Alors, vous avez un petit peu décrit dans la famille dans laquelle il a vécu, il a grandi. Donc, après des études normalement, on a l'impression brillantes, il est professeur de grammaire à Tagaste, à Soukaras, puis il fonde une école. Hein, et en 375 à 383, il est professeur d'éloquence à Carthage. Alors, qu'est-ce que c'est?
Techniquement, c'est le rhéteur, hein, et on enseignait la rhétorique. Hein, et vous avez très très bien dit, c'était justement l'art de de l'Holocauste. Alors, dans son livre des Confessions, il dit, n'est-ce pas, c'est l'art de manipuler la parole. Et c'est très beau, parce que saint Augustin sera justement, même quand il devient chrétien, évêque, etc. Et il sera évêque, oui, bien sûr, parce qu'il avait quelque chose de solide en lui, mais parce qu'il avait impossibilité de donner des sens à des mots qui n'étaient pas très évident. Et aujourd'hui, en philosophie des langages, on voit combien saint Augustin, il est actuel à cause de ça, à cause de toute cette sémantique qu'il a inventée, justement. Mais alors, donc, à ce moment-là, il n'y avait pas, si vous voulez, n'est-ce pas, l'université telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas des bâtiments comme on les connaît. Chaque professeur, donc, il arrivait dans la ville, par exemple, à Amador, parlons d'Augustin, à Carthage. Donc, il arrive à Carthage. Il fallait que lui, il trouve deux ou trois chambres. Il louait deux ou trois chambres. Donc, le matin, il arrivait, il ouvrait les chambres, et là, alors, il enseignait la rhétorique, qui était un programme très exigeant, hein, parce que, alors, il concernait non seulement ce que nous pourrions appeler l'analyse des textes, l'analyse structurelle, l'analyse grammaticale, mais après ça, il fallait faire la stylistique, n'est-ce pas, chercher la style, faire la comparaison, entrer dans une autre, plus tard entrer en philosophie, donc analyser le concept, hein, et pour pouvoir analyser le concept et les donner, si vous voulez, n'est-ce pas, une certaine consistance, il fallait connaître aussi d'autres comme les droits, comme la géographie, parce que, si vous voulez, n'est-ce pas, ça correspondrait un petit peu à ce que les Anglais, ils appellent the humanities, les humanités. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler sur un sujet, hein, si vous ne pouvez pas le situer à l'intérieur de son propre monde. Hein. Alors, finalement, le vrai Rutter, le vrai, hein, et déjà des temps d'Augustin, nous sommes en Basse-Empire, hein, il y a une décadence extraordinaire de l'art de l'éloquence. Hein. Mais justement, Augustin, lui, parce qu'il était si génie qu'il était, il a si donné, hein, toute la force qu'il devait y avoir. Alors, quand on fait ça, quand on enseignait, n'est-ce pas, hein, moi j'ai dit, quand je fais ça, quand j'enseignais la philosophie, n'est-ce pas, j'ai toujours dit à mes étudiants, vous voyez, il faut que vous appreniez à faire parler un texte. Qu'est-ce que ça veut dire parler un texte? Vous lisez, hein, et vous ne voyez que la signification qui saute aux yeux. Or qu'il y a énormément. C'est un abîme, c'est un puits derrière les mots, n'est-ce pas? Les mots, à chaque instant, à la rencontre d'une émotion, d'une situation réelle, ils engendrent des significations. Et leur éther, c'est ça.
On poursuit. En 387, il va à Milan, et puis c'est la rencontre avec l'évêque Ambroise qui le subjugue et le fascine. Alors il prend l'engouement à la lecture de la ville. Augustin prend aussi la décision de devenir chrétien et moine. Il renonce son professorat. Il suit pendant une année les enseignements d'Ambroise et se fait baptiser durant la nuit pascale, le 24 avril 387.
Si vous voulez bien, on revient un peu en arrière. Saint Augustin, donc, il est né dans une famille où la maman, Monique, était déjà chrétienne. Mais le papa, Patricius, lui, il était païen. Or, c'était dans la politique de l'Église, à ce moment-là, de ne pas baptiser les enfants, hein, dans les, si vous voulez, n'est-ce pas, dont le père était païen. Hein, pour, et il y a plusieurs raisons, on ne revient pas. Donc, on inscrivait, on mettait, si vous voulez, sur la liste, et on l'appelait catéchumène. Donc, Saint-Augustin était catéchumène. Il est certain également que, à la maison, comme toutes les mamans, on la voit très bien aussi dans la tradition algérienne, dans la tradition musulmane, mais ça aussi dans nos pays méditerranéens, la première formation religieuse, elle passe par la maman. Oui. Donc, Monique, elle lui parlait justement de Jésus, elle lui parlait de la foi chrétienne. Et à 19 ans, quand Saint-Augustin commence à étudier Cicéro, parce que c'était un livre de Cicéro qu'il devait étudier pour le style, qui s'appelait Hortensius et qu'on l'a plu, Saint-Augustin, dans les confessions, il nous dit justement qu'à ce moment-là, il est embrasé. Parce que Cicéro, il demande, et Cicéro demandait justement de chercher la sagesse. Or, à ce moment-là encore, n'est-ce pas, le mot, même latin, qui est en transcription du grec, hein, philosophia, hein, ça veut dire philosophia, c'est-à-dire ami, philois, hein, philos, hein, sophia, c'est la sagesse. Alors, Saint Augustin, à ce moment-là, il revient en lui-même et commence à s'interroger sur la signification de sa vie. Et au fur et à mesure qu'il avance, justement, il se rend compte qu'il n'avait qu'un seul souci, chercher la vérité, hein, quel que soit, il dira un jour. Parce que la recherche, la quête de la vérité ne peut vous mener qu'à la vérité. Et alors, peu à peu, il découvre justement que la vérité, il va à l'église, il est dessus par, un petit peu par l'évêque de son pays, parce qu'il n'avait pas certainement l'intelligence nécessaire pour pouvoir expliquer à Augustin et calmer les doutes qu'il avait. Il tombe dans le manichéisme parce que finalement, Saint Augustin, et ça on le voit tous, nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? À un certain moment dans notre jeunesse, on veut être rationaliste. Et Saint Augustin ici voit très bien que le manichéen, il n'offre pas une vraie solution. Quand il est à Rome, il monte à Rome. Pourquoi? Parce qu'à Carthage, les enfants, les jeunes, ils font trop de bruit. Donc, et lui, il a dit, ça ne vaut pas la peine. Mais Augustin avait aussi une ambition de devenir très probablement un gouverneur. Donc, ils avaient des ambitions politiques. À Rome, ils pouvaient accéder au siège, qui était à ce moment-là à Milan. Et à Rome, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va tomber dans le scepticisme, ce qu'on appelle les académiciens. Vous voyez, dans cette évolution, arrive Saint-Augustin à un moment où il dit non. On ne peut jamais arriver à la vérité. Parce que ce philosophe prêchait, il faut douter de tout. Hein? Mais alors, Saint-Augustin l'explique, il faudrait un jour lire ce texte, ce beau texte de confession. Il a dit, alors, quel désespoir. Hein? Savoir d'un côté que je veux la vérité, et de l'autre côté, avoir ce sentiment de ne pouvoir jamais y parvenir. Et voilà,
il est en quête,
mais angoissé. À Rome, les Romains sont malins. Hein? Et parce que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? On payait à la fin des mois. Mais alors, si la mois, il y avait 30 jours, le 29, il disparaissait. Et donc, Saint-Augustin, il trouvait son argent. Alors lui, il l'a voulu par un ami, il a trouvé une place à Milan comme réter. Et c'est là qu'il rencontre Ambroise. Et voilà, n'est-ce pas? Donc, Ambroise va lui introduire dans les mouvements que nous appelons, n'est-ce pas, les néoplatonisme. Qu'est-ce que c'est le néoplatonisme? Si vous voulez, n'est-ce pas, c'est la découverte de la réalité, de l'existence d'une réalité spirituelle. Deux graves problèmes ont inquiété saint Augustin. Le problème de Dieu, parce que Augustin ne pouvait pas concevoir Dieu qui n'était pas une matière, hein, prima, et le mal. Hein. Si Dieu est bon, d'où vient le mal? Et saint Ambroise, n'est-ce pas, avec ses amis chrétiennes laïques, n'est-ce pas, néoplatoniciennes, ils au moins lui ont fait découvrir la possibilité de pouvoir concevoir une réalité spirituelle, immatérielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de corps, mais qu'il est vrai. Et après, bien sûr, il va écouter, et à ce moment-là qu'il revient sur la Bible, parce que quand il a pris le livre saint au début, hein, à 19 ans, il a cherché la beauté de la langue alors que la Bible était écrite dans les langues de peuple. Hein? Il a cherché le rationalisme et il trouve maintenant que la Bible n'est pas un livre scientifique, mais que justement, il y a une interpellation de part de Dieu qui passe justement par mille autres chemins. Et peu à peu, donc, il se rend compte que le Christ était en train de l'appeler, comme vous dites, après il est parti une année pour se préparer.
Lucien Borges, évidemment, c'est frustrant, on ne pourra pas tout dire pendant une heure. Parler de Saint-Augustin, ce serait drôlement prétentieux. Donc, je poursuis, 388, c'est le retour à Tagaste, c'est-à-dire la ville de Sukaraste. Il mène une vie donc, en communauté avec quatre compagnons. C'est la pauvreté, la discrétion, comme vous venez de le dire, faisant tant que témoignage de leur foi pour leur travail et leurs actes. Et en 395, Augustin est nommé quand même évêque. Et pendant 35 années, il accomplit son ministère au service de chacun, c'est-à-dire privilégiant les pauvres. Il prend position contre la torture, contre les hérésies. Grand prédicateur, il attire donc les foules. Il rédige les écrits que nous lui connaissons. Et entretient une énorme correspondance dans le monde de l'époque. Est-ce qu'en 395... Père Lucien Borges, peut-on dire que l'Église avait un pouvoir politique important?
Certainement, c'est-à-dire que, je dirais, un pouvoir certain, pas nécessairement un pouvoir fort, parce qu'en Italie, il y a encore la lutte avec les ariennes, avec l'arianisme, hein, qui va être présenté du temple d'Ambroise, n'est-ce pas, même à la cour impériale, n'est-ce pas, la reine, elle est des confessions à rien. Ici, en Afrique du Nord, nous avons le grave problème de donatisme, n'est-ce pas, qui a divisé l'Église, peu importe un petit peu qu'est-ce qu'on met sur le nom. Mais disons, l'Église, oui, elle était reconnue maintenant officiellement, elle ne subit plus la persécution, elle a ses bâtiments, elle marche dans la rue.
À l'époque.
Oui. Hein, d'accord. Et parce que justement, avec Constantin, hein, 300, je ne me rappelle plus maintenant, 18, il y a ce qu'on appelle l'édit de liberté. Oui. Donc l'Église est là. Mais je reviens sur Saint-Augustin, sur le petit résumé que vous avez bien fait. Pour remarquer une chose, Saint-Augustin en Italie, il s'est toujours senti étranger. Et là, vous savez, quand moi j'entends un petit peu les gens qui parlent, les immigrés qui parlent de leur pays, encore hier j'ai vu un documentaire, hein, je pense toujours à Saint-Augustin. Saint-Augustin a toujours rêvé de revenir au pays, à Sukaraste. Hein, mais une fois qu'il est revenu, hein, il ne partira jamais, il ne traversera plus jamais la mer, Saint-Augustin. Donc, cet amour pour son pays, hein, cet amour pour, c'est-à-dire la terre, la campagne, ça disait énormément de choses. Saint-Augustin, il était vraiment chez lui quand il était chez lui. Vous voyez, ça il faut pas l'oublier. Et quand il était revenu, n'est-ce pas, lui, il était aussi un peu chauvin, hein, et nationaliste, si vous voulez, n'est-ce pas. Il avait beaucoup d'offres pour aller à Carthage. Lui, il l'a voulu au moins, n'est-ce pas? Non, il a voulu rester à Soukakhras. Et c'est, nous le disons par providence, qu'il est venu à Annaba, à Hippon. Et c'était arrivé ainsi. Il est venu parce qu'il y avait un ami qui lui avait posé certaines... Non, c'est une question sur la vie. Qu'est-ce que vous faites là, n'est-ce pas? Comment ça va, etc.? Et nous, Augustin, il ne le dit jamais expressément, mais il semblerait, de ce qu'il nous dit, que lui croyait pouvoir l'attirer pour sa communauté. Il est venu ici, c'était un dimanche, il est allé le soir à l'office. Et après l'office, l'évêque qui était Valerius, qui lui était originaire d'origine grecque, parce que Hippon, à ce moment-là, elle était très cosmopolitaine, n'est-ce pas? Il rappelait à la communauté de pouvoir lui choisir quelqu'un pour l'aider. Or, les gens ont reconnu Augustin. Donc, Saint-Augustin, déjà à ce moment-là, 2 ans après son retour à Soukakhras, il est déjà très très connu.
Alors, Pierre, bon, j'ai beaucoup de questions encore que j'aimerais vous poser. C'est pour ça que je vais essayer de faire le maximum. Donc, l'Afrique romaine est longue de 5 siècles. Hein. Saint-Augustin, oui, a vécu 76 ans. Mais nous ne pouvons pas séparer Augustin de son Afrique romaine, comme nous ne pouvons pas concevoir l'Afrique romaine sans Augustin. Peut-être une toute petite réponse. Ensuite, on parlera de cet homme de grand talent littéraire.
Et moi, je dis une chose peut-être, méfions-nous, faisons attention à ne pas faire certaines comparaisons qui scientifiquement ne tiennent pas. Hein? Et la colonisation romaine, elle n'est pas comparable à une autre colonisation. Et donc, par conséquent, quand nous disons, n'est-ce pas, Saint-Augustin a appartenu au monde romain, ça c'est vrai. Hein? Mais il faut savoir, pour que le concept dit quelque chose de vrai, il faut bien qu'on l'encadre et on le situe dans le contexte socio-culturel et politique de ce temps-là. Vous voyez, comme un grand spécialiste disait, peut-être l'Empire romain, n'est-ce pas, c'est l'unique empire dans le monde, hein, jusqu'à maintenant. Maintenant, on commence à parler de la globalisation et de la mondialisation, mais jusqu'à maintenant, les Romains, ils ont réussi une chose que les autres n'ont pas réussi, c'est-à-dire qu'à travers la différence des différentes ethnies et des différentes cultures présentes sur le territoire de l'Empire, ils ont réussi, malgré tout, avec grande imperfection et avec beaucoup de faiblesses, à créer une vraie unité. Il ne faut pas croire, n'est-ce pas, qu'un Africain il se sentait moins intéressant qu'un Romain.
Alors, homme de grand talent littéraire, passionné de Dieu et de l'homme, c'est en Afrique romaine qu'il a écrit la plus grande partie de ses œuvres devenues un patrimoine universel. Je voudrais, pour terminer, vous demander quel genre de combat a-t-il mené et l'œuvre augustinienne qu'a-t-elle apporté à la chrétienté. Alors tout ça, si vous pouvez me synthétiser.
Oui. Alors, ouais, j'ai dit donc un combat du point de vue spirituel, c'était celui-là d'être vraiment à Dieu en sortant de soi-même pour servir les autres. Mmh. Ça, je pense, et c'est très très important. Pour ce qui concerne l'Église de l'Afrique du Nord et même le pays, hein, c'était un petit peu sorti du grave problème du donatisme. Le donatisme, n'est-ce pas, il avait divisé les Africaines, le Nord africain en deux classes. Hein. Le troisième, le combat pour une justice sociale fondé. Et alors, finalement, et je dirais le grand témoignage que nous laisse Augustin, qui nous est très important aujourd'hui, c'est une paix fondée sur une vraie justice, n'est-ce pas, laquelle ne peut être que l'expression d'un vrai amour. Alors, bien sûr, l'œuvre, surtout c'est très connu, les Confessions et la Cité des Dieux. Mais il y a des Trinitates, il y a le livre sur la Trinité qui a pris 17 ans pour le construire.
Je voudrais vous revenir à vous. Vous êtes ici à Annaba, à Ipon. Votre dernier souhait?
Moi, je souhaite que nous puissions continuer à vivre ensemble, hein, dans le respect, grandissons ensemble. Ce que je souhaite, c'est que Saint-Augustin continue à prier pour son pays, hein, que ce pays connaisse une vraie paix, une vraie réconciliation, que nous soyons ouverts les uns et les autres.
Père Lucien Borges, moi j'ai le plaisir de savoir que vous, malgré Annaba, que vous puissiez écouter d'une manière attentive la chaîne 3 et que vous êtes un fidèle auditeur. Mais moi, ça nous fait plaisir. Vous êtes un des rares à pouvoir capter la chaîne 3 ici à Annaba, peut-être par le site géographique.
Oui, oui, je suis très content maintenant d'apprendre ça, que peut-être nous sommes l'unique à Annaba. Oui, oui, bien sûr, nous. Et pensons, bien entendu, nous mettons la radio en arabe, nous avons des chaînes maintenant aussi en arabe, donc on les suit, etc. Mais je peux dire en toute humilité, à 7h du matin, après nos offices, la première radio qui s'ouvre dans notre couvent, c'est les chaînes 3, pour écouter les nouvelles et un petit peu aussi le reste qui suit. Et nous souhaitons à tous les journalistes, justement, des chaînes 3, j'espère qu'ils continuent et que surtout n'oublient pas et notre grand patrimoine, c'est défendre la vérité.
Voilà, pour terminer, je dois vous rappeler qu'une exposition consacrée à l'africanité et à l'universalité d'Augustin a été montrée donc à Alger, puis dans 9 autres villes algériennes, dont bien sûr Annaba. Alors, elle est dotée de grands panneaux illustrés avec des textes en français et en arabe. Elle montrera la célèbre mosaïque Paix et Concorde, accompagnée de textes d'Augustin. Des objets archéologiques, des éditions anciennes, des publications récentes illustreront les thèmes de l'exposition. Alors, cette exposition sera ensuite montrée à Fribourg du 18 octobre au 20 novembre, puis à Genève au Palais des Nations à partir du 5 décembre 2000. Amis auditeurs, j'espère que, bien sûr, on n'a pas pu tout dire. Il y a de cela 16 siècles de cela. J'espère que vous avez passé d'agréables instants. Je vous retrouve donc jeudi prochain à la même heure. Que Dieu vous garde.